Donc, bienvenue à l'Espace Mendès France. Donc, pour cette première conférence du forum citoyen consacré au numérique, donc deux mots sur le forum citoyen sur ça, c'était plus de son nom. Le forum citoyen de cette année. Donc, c'est une initiative qu'on organise tous les ans depuis l'accident nucléaire de Fukushima à la demande de l'agglomération pour débattre, donner des éléments d'information scientifique, de réflexion. Mettre en relation des spécialistes, des chercheurs avec tous les publics. Voilà, donc cette année, la thématique est le numérique. Alors, on débute avec une vraie conférence d'informatique, parce qu'on a tendance à parler du numérique, c'est un terme très vague, mais en fait, ce dont on parle, c'est aussi d'informatique. Mais dans la semaine, on s'intéressera, donc je fais un balayage rapide, hein. Demain matin, on s'intéressera au badge, c'est-à-dire à la façon de valoriser les compétences, les savoir-faire d'un territoire. Parce qu'évidemment, quand on parle du numérique aujourd'hui, on parle de bouleversement, d'où le titre « Transition en cours ». Et l'après-midi, on s'intéressera à la dynamique d'ouverture des données publiques menée depuis un an maintenant par l'agglomération Grand Poitiers, donc avec table ronde, présentation, retour d'expérience et des choses comme ça. Jeudi matin, on s'intéressera aux usages avec une matinée qui s'intitule « La mise en données du monde » avec des chercheurs. Il y a aussi, dans le cadre de l'ouverture des données publiques, on avait lancé avec l'agglomération un appel à participation sur la réutilisation de ces données qui étaient libérées. Il y a 150 jeux de données au jour d'aujourd'hui. Par l'agglomération, et on a eu un certain nombre de retours qui sont présentés dans le cadre du forum. Donc tout ça est détaillé sur la brochure. Vendredi matin, on s'intéressera aux acteurs de la médiation présents sur l'agglomération de Grand Poitiers, donc les espaces publics numériques, les Fab Labs, des lieux comme ça. L'après-midi, on a une journée consacrée une demi-journée à la créativité dans les territoires, au sens large, et en parallèle un atelier sur les réseaux sociaux, toujours des ateliers de Grand Poitiers, donc issus de l'appel à participation. Vendredi soir, je balaye large, hein, un film au Dietrich qui s'appelle Ex Machina, sur l'intelligence artificielle, etc. Le samedi, toujours les ateliers Grand Poitiers, et un débat autour d'une initiative que vous avez peut-être pu suivre sur Arte qui s'appelait Do Not Trace, sur le traçage des usages des internautes, ou en fait plus généralement des usagers de prothèses numériques, donc comme les smartphones ou autres. Donc les ateliers Grand Poitiers, je l'ai dit. Et dimanche, ici, une projection du film Une contre-histoire de l'Internet avec un débat avec Laurent Bloch, qui est informaticien et qui a suivi un petit peu toute l'histoire de l'informatique. Et dans l'après-midi, un atelier autour des imprimantes 3D. Donc voilà, donc je ne rentre pas trop dans le détail des ateliers, mais vous avez tout le programme ici. Donc là, pour la première conférence, donc je laisse la parole à Hakim Ferrier-Belaoueri. Désolé. Et donc autour des objets 3D. Et donc il va nous présenter aussi le laboratoire pour lequel il travaille. Merci.
Merci bien. Donc, bonjour à tous. Je suis donc maître de conférence à l'Université de Poitiers et je suis aussi enseignant-chercheur au sein du laboratoire XLIM, qui est une UMR du CNRS. Donc moi, je participe dans l'équipe informatique graphique qui compte actuellement 17 membres permanents, puis environ 7 doctorants, il y en a 2 qui devront soutenir dans pas très longtemps, plus quelques post-docs, des ATER, et dépendamment de la saison, différents stagiaires de licence et de master. Actuellement, on n'en compte aucun, bien évidemment. Ensuite, alors, notre travail, c'est un travail de recherche dans le domaine de l'informatique graphique. Nous avons au sein de l'équipe 3 axes particulières. Donc la première où je m'intègre, qui est la modélisation géométrique, qui inclut aussi de la géométrie discrète. Une deuxième partie où je m'occupe aussi de la première partie, donc de l'animation et de l'animation basée physique et de la simulation. Alors je ne ferai pas le distinguo pour l'instant ni dans cette présentation-là. Et enfin, une troisième partie qui est dédiée au rendu réaliste. Donc ça, c'est tous les effets spéciaux qu'on peut voir actuellement dans le cinéma, plus des images ultra réalistes, et ainsi que des calculs de visibilité et d'interactivité. Donc tout ça, ce sont des calculs d'optimisation au sein de la 3D pour générer des images de plus en plus réalistes. Enfin, il faut savoir que notre laboratoire est reconnu au niveau national et international. Donc le premier point, c'est sur la gestion d'objets complexes structurés. Donc cette information, c'est un bien grand mot, mais qui signifie en d'autres termes que nous sommes capables de modéliser des objets 3D et de faire des hypothèses ou des propriétés intrinsèques, mathématiques de ces objets-là. Alors je n'en parlerai pas beaucoup plus au sein de la présentation, mais nous pouvons tout à fait en discuter tout de suite après. Ensuite, on va utiliser des structures d'optimisation pour réaliser des traitements spécifiques, donc aussi bien pour les impressions 3D que pour le cinéma ou pour réaliser des effets spéciaux. Nous sommes aussi capables de reconnus pour la construction d'objets complexes. Alors, qu'est-ce que j'entends quand c'est objets complexes ? C'est des objets soumis à beaucoup de contraintes. On verra ça après. Une première contrainte, c'est une contrainte dite d'orientabilité de l'objet. Donc, tous ces gammes-là sont représentées et nous avons une certaine reconnaissance là-dessus. Et enfin, pour différentes optimisations sur les calculs d'objets 3D. Donc, ça inclut en particulier l'usage des cartes vidéo, qu'on appelle plus communément des GPU, pour réaliser des calculs massivement parallèles, au lieu d'utiliser des simples processeurs classiques comme on peut en trouver sur les machines standards. Donc, nos activités, donc, je suis enseignant-chercheur, donc je fais de l'enseignement, bien sûr. Bon, j'ai ici quelques-uns de mes doctorants, de mes étudiants. Doctorants, pas du tout. Je voudrais bien pour certains. Bon, plus sérieusement. Nous avons aussi des projets de recherche auxquels nous répondons soit pour la région sous la forme de CPER, soit au niveau national pour l'ANR. Nous avons aussi différents partenariats, donc un partenariat sur l'architecture archéologique avec l'Espagne, sur la géométrie discrète avec le Japon. Donc c'est un projet qui s'appelle Sakura, où les deux principaux acteurs sont Eric Andrés et Gaël. Gaël Scapin-Largeteau. Avec l'Algérie, donc ça c'est plutôt pour des aspects de type rendu, donc c'est avec la ville de Biskra. Et le Vietnam, où on commence à avoir des contacts pour pouvoir manipuler nos méthodes 3D au vu de la simulation d'environnement, pour simuler l'écologie, les écoulements d'eau, le calcul de crue. Donc ça se fait avec le Vietnam. Donc en plus de ces activités de recherche au niveau national et international, nous servons aussi de support R&D aux entreprises de type TPE ou PME, soit via des dispositifs fournis par la région, donc c'est le dispositif Priminov entre autres, fourni par la région, soit de manière plus épisodique, c'est-à-dire au sein d'un stage, au sein d'une différente interaction avec des entreprises plus spécifiques de la région Poitou-Charentes. Donc, on va commencer tout de suite, hein, par la première chose, on va commencer simplement en donnant une définition de ce qu'est un objet 3D. Donc, un objet 3D, en fait, se représente dans un espace mathématique de dimension 3. Et ces trois dimensions, on va les simplifier en disant que nous avons la largeur, ensuite la hauteur et enfin la profondeur d'un objet. Donc, si c'est une définition qui est assez classique. Donc, on aurait pu complexifier un petit peu l'information en disant que ces trois composantes doivent être indépendantes. Mais ça représente déjà une très bonne base pour comprendre ce qu'est un objet 3D. Ensuite, en informatique, nous avons plusieurs représentations possibles de ces objets 3D. Donc, la plus connue, c'est ce qu'on appelle les méthodes polygonales. Donc, en gros, on va utiliser des polygones pour représenter le bord d'un objet. Et c'est la méthode qui est utilisée, entre autres, dans les jeux vidéo ou dans le cinéma. Ensuite, on a une autre représentation qu'on appelle les NURBS. Donc, c'est des surfaces qui vont servir de point de contrôle pour générer une courbe spécifique. Et donc, ça permet de représenter tous les objets qui sont lisses, qui sont complètement arrondis. Donc, ça a été inventé dans le domaine automobile. Ça a été initié par Citroën, de mémoire. Ensuite, on a d'autres types de représentants un peu plus obscurs, en particulier la notion de surface implicite, qui est juste une généralisation des NURBS. Ou la modélisation volumique auquel on va considérer un objet dans son ensemble avec un intérieur particulier. Et ça, par exemple, c'est très utilisé dans le médical. Alors aussi, un autre amalgame qui est assez classique, c'est que généralement, on se dit, oui, nous, on évolue dans un monde 3D, donc les objets 3D, c'est la même chose. En réalité, ce n'est pas vrai. Un objet 3D peut exister alors que dans le monde réel, ça ne peut pas exister. Alors ici, vous avez un premier exemple, c'est ce qu'on appelle la bouteille de Klein. Alors, petite anecdote, en fait, mathématiquement parlant, il ne faut pas appeler ça une bouteille, mais il faut appeler ça une surface de Klein. Et ça a été une erreur de traduction en passant de l'allemand, où le mot bouteille est très proche du mot surface. Et le terme est resté bouteille de Klein. Et on voit tout de suite que c'est une bouteille qui n'a pas de fond, auquel le fond est raccordé par le haut, par une sorte de tuyau. Et en 3D, ça se comprend facilement. Alors ici, j'ai mis une image de découpe. Et on voit bien qu'ici, la première surface va interpénétrer la bordure. Et cet objet-là ne peut pas exister dans le monde réel, parce qu'ici, on aurait eu tout simplement une fusion de matière. On aurait eu un problème pour représenter cet élément-là. Et donc, la bouteille de Klein n'est pas représentable dans le monde réel. Pour être plus précis, plus formel, c'est ce qu'on appelle l'orientation d'un objet. En d'autres termes, ici, on ne peut pas traverser des objets. On a une perte de la propriété de partitionnement de l'espace à cause de ce phénomène-là. Voilà. Donc ça, sachez juste que ce n'est pas forcément la même chose. Alors, l'usage des objets 3D, donc on le connaît très bien, hein. Le premier exemple qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est dans le cinéma et en particulier pour les films d'animation. Alors je ne vais pas présenter les filières, mais on a tous au moins vu un de ces films-là, a priori, soit avec des enfants, soit avec des amis, ou soi-même, parce que ça s'apprécie. Donc ça, qu'on soit bien d'accord, c'est ce qu'on appelle des films d'animation, c'est-à-dire qu'ils sont tournés entièrement avec un ordinateur, il n'y a pas d'intervention humaine là-dedans. Et ensuite, on l'utilise aussi pour réaliser des effets spéciaux. Alors, des effets spéciaux à gros budget, on va dire ça, hein, où des scènes complètes du film sont modélisées en 3D, puis insérées dans un monde réel, où nous utilisons des acteurs qui vont essayer d'animer dans le film, puis nous allons remplacer cet acteur par une modélisation 3D. Donc ici, c'est la planète des singes de 2014, mais aussi le faible coût de ces objets 3D, de la modélisation 3D, fait que les effets spéciaux commencent à arriver sur les séries. Alors là, c'est Game of Thrones, pour ceux qui connaissent, où ici, on a modélisé une partie du dragon que ce personnage est en train de caresser, et la série Doctor Who, où ils utilisent quasiment à chaque épisode énormément d'effets spéciaux pour intégrer différents objets, différents extraterrestres ou autres. En parallèle de ça, la deuxième utilisation majeure. Ah oui, si. Avant de passer. Excusez-moi, j'ai changé plusieurs fois mes transparents parce que c'était trop long. Je suis désolé. Je risque d'avoir deux, trois couacs parce que je suis habitué avec l'ancienne présentation. Bref, oui, ce que nous ne verrons pas, c'est une question assez importante, c'est la partie incrustation. Donc la partie incrustation, en fait, c'est plus du traitement d'image que de la modélisation 3D. Donc qu'est-ce qu'on appelle les techniques d'incrustation? C'est, par exemple, ici, on va tourner une scène, en effet, et derrière cette scène, on va mettre des fonds verts, et ces fonds verts vont servir à intégrer une image. Donc ça, c'est de l'incrustation numérique. En effet, ça utilise la 3D parce que le champ qui est autour, c'est de la 3D, mais ces techniques-là ne viennent pas des objets 3D directement parlant, mais des techniques de traitement d'image. Il en est de même, de même ici, où on va utiliser un acteur avec des techniques, alors avec des marques particulières, et ces marques vont servir à animer un modèle 3D particulier. Là encore, donc ça c'est Robocop de mémoire, Robocop 2014. Et en fait, en fonction de l'interprétation de ces petites marques, le traitement d'image va faire que le personnage 3D va tourner la tête, va bouger de la même façon que l'acteur réel. Donc ces techniques-là, ce sont des techniques d'incrustation, c'est des techniques de traitement d'image. Donc je n'en traiterai pas, mais elles sont présentes. Il faut savoir qu'on les utilise couramment au cinéma. Donc pour continuer un petit peu sur les usages, nous avons bien évidemment les jeux vidéo, hein, c'est d'ailleurs pour ça où ça a été inventé initialement, hein, jusqu'aux années 90, les jeux vidéo étaient en 2D généralement, puis la 3D est venue, Et ce qui fait la définition d'un jeu vidéo, c'est surtout son interactivité, le fait qu'un humain va pouvoir interagir avec le logiciel pour faire des mouvements, pour se déplacer, pour réaliser des actions particulières. Et même si on peut différer après plusieurs types de jeux, les jeux dits linéarisés, c'est-à-dire avec un scénario auquel on n'a pas le droit de trop s'écarter de ce qu'a prévu les concepteurs de jeux, et les jeux dits à monde ouvert où l'utilisateur, le joueur peut réaliser absolument tous les mouvements qu'il veut parmi une très grande, parmi un très grand panel de choix réalisés par le designer. Donc ici nous avons quelques exemples de jeux d'action avec une pointe historique. Alors après, à vous de choisir où est-ce que vous mettez cette pointe-là. Il existe aussi des simulateurs, donc des de jeux dits de simulation, donc simulation de voiture entre autres. Bon, et ici, ce cas particulier, c'est le jeu Batman Arkham Knight qui est sorti en juin dernier. Donc pourquoi j'en parle de manière un peu particulière, c'est qu'il faut savoir que les jeux vidéo a de très fortes contraintes d'exécution. L'idée, c'est qu'on va devoir calculer des images environ une trentaine de fois par seconde, qu'on appelle un frame rate ou un FPS, où on va devoir calculer énormément d'images à la seconde, et donc on va avoir des contraintes d'exécution très fortes. Et ces contraintes sont encore plus complexes à cause de l'hétérogénéité des machines. C'est-à-dire que ça doit pouvoir tourner aussi bien sur une petite console, sur une grosse console, sur un ordi portable ou sur un ordi fixe. Et toutes ces contraintes font que Batman Arkham Knight a eu un couac à sa sortie, n'a pas respecté les contraintes. Donc c'est une petite anecdote. Et donc le jeu est sorti le 23 juin et il a été retiré à la vente trois semaines plus tard parce que le logiciel ne fonctionnait pas sur un ordinateur portable ou sur un ordinateur fixe, parce que les temps de calcul étaient trop gros, trop grands, et donc le public n'avait très très mal accueilli le jeu. Pour information, il est ressorti il y a deux semaines, il a été remis à la vente, parce qu'ils ont corrigé toutes les erreurs, tous ces problèmes de contraintes d'exécution. Alors, comme quoi les jeux vidéo, c'est pas si évident que ça. Enfin, un dernier type d'usage, donc c'est ce que je vais appeler le ailleurs. Donc en effet, donc dans le ailleurs, il y a énormément de points. Il y a des utilisations qui se partagent avec ce qu'on avait vu au terme de cinéma ou avec les jeux vidéo. Donc généralement, je parlerai pas directement de ces deux cas, j'insisterai sur le cinéma ou sur le jeu vidéo. Il faudra extrapoler sur les autres cas possibles. Donc parmi ces autres cas, c'est l'idée, c'est d'offrir une visualisation réaliste d'un monde réel, passé ou autre. Donc typiquement, dans un premier temps, c'était les chercheurs en archéologie qui avaient besoin de remodéliser des cathédrales. Donc ça, c'est l'intérieur d'une cathédrale, alors je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, ça c'était le portail de Lyon en 1700, donc qui a été remodélisé entièrement en 3D, ou sur l'étude de la construction des voûtes, la reconstruction de bâtiments qui n'existent absolument plus, et ou tout simplement la réalisation de monuments existants pour pouvoir réaliser des simulations d'éclairage pour des festivités ou autres. Donc tous ces aspects-là, ça a été le premier usage des éléments, et bien évidemment on peut voir que dans ces méthodes-là, il va y avoir une interactivité, comme dans les jeux vidéo, où on va pouvoir se balader dedans et voir les effets de lumière. Ici, voir comment la lumière se propageait sur les différents vitraux si nécessaire. Et comprendre un petit peu comment les hommes de l'époque arrivaient à construire des arcs aussi compliqués au sein d'une église extrêmement grande. Mais depuis peu, on commence aussi à avoir énormément de modeleurs dédiés soit à des plans d'architectes, comme ici c'est le logiciel Revit, donc de Autodesk, qui est un logiciel dédié qui supporte toutes les normes de codification des architectes, mais aussi pour les particuliers. Donc ici c'est le logiciel Sweet Home 3D, qui est un logiciel libre, qui vous permet de définir simplement l'intérieur de votre maison et qu'on possède une très grande bibliothèque de meubles où vous pouvez les incruster. Et lorsque vous avez fini votre traitement, vous avez une vue 3D auquel vous pouvez vous balader à l'intérieur de votre maison. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va mettre les meubles en cas de déménagement ou d'emménagement. Et donc, beaucoup de marques ont commencé à exploiter cette mécanique-là. Donc, en particulier, les cuisinistes comme Schmitt ou d'autres vendeurs de meubles comme Ikea et Leroy Merlin offre la possibilité d'utiliser directement un modeler. Alors là, ici, c'est un modeler 2D, mais on peut exporter une version 3D sur certains modèles. Et ce qui nous permet de tester différentes configurations. Alors là, ici, c'était la taille d'un meuble auquel j'ai pris les mêmes meubles et je les ai configurés dans deux espaces différents pour voir un petit peu ce que cela donnait. Donc voilà. Donc ce genre de technique, en gros, le fameux ailleurs. Les autres usages, c'est des usages dits pour modifier ou pour tester rapidement des hypothèses en guise de simplifier la vie ou pour anticiper un petit peu des besoins. Donc ça, c'est un troisième type d'usage qui peut se réaliser. Alors juste avant de parler des objets 3D, une petite mise au point, un petit point important que je trouve important, c'est le fait qu'il faut bien comprendre qu'un objet 3D est en 3D, mais dans son monde à lui. Et nous, simple observateur, nous allons observer cet objet 3D au travers d'un écran. Et bien évidemment, cet écran va avoir différentes contraintes, différentes hypothèses. Donc, c'est ce qu'on appelle la projection, hein, ou le fait de passer d'une dimension 3 à une dimension 2, qui est l'écran. Donc, c'est une projection. Et cet écran, à l'heure actuelle, nous avons plusieurs codifications, plusieurs normes. Donc, la première ici qu'on appelle le HDDV, alors en français, dans le langage plus commun, on appelle ça le HD Ready. Tout le monde ne se rappelle pas forcément du terme, il est déjà un petit peu vieux. Voilà. Et nous avons une autre résolution sur l'air. Actuellement, on est au niveau de cette aire-là, donc les HDDV inférieurs aux 2K, qu'on appelle plus communément le Full HD. Et donc là, actuellement, on est à des tailles de résolution allant de 1920 par 1080. Qui est le Full HD. Et il faut savoir que les télés UHD commencent à sortir, ou les télés 4K hein, dans le commerce. Il n'y a pas de très grosse différence entre les deux. Donc actuellement, les télés commencent à sortir ça, mais sachez qu'il commence déjà à exister des formats beaucoup plus larges, beaucoup plus variés, auxquels on va insérer énormément de points, de pixels dans notre écran. Et c'est ce qu'on appelle plus communément la 8K. Donc, ce qui est rigolo pour les cinéphiles, c'est que si vous avez un DVD, il faut connaître la résolution classique dans un DVD est de 720 sur 576, classique. Hein, après, il y a des cas particuliers. En d'autres termes, ça signifie que si vous avez une télé HD, vous profitez pleinement d'un DVD. En revanche, pour les Blu-ray, alors je n'ai pas mis de screenshot, je ne voulais pas donner de nom de film, mais concernant le Blu-ray, qui est le nouveau format des DVD des films. Il existe plusieurs versions pour les Blu-ray, donc une version dite intermédiaire et une version dite 1080p, qui est celle-là. Et donc, on peut voir tout de suite que si vous avez utilisé des Blu-ray sur une télé HD Ready, très clairement, la résolution ne sera pas suffisante, donc vous ne pourrez pas profiter de votre film. Donc, si vous avez des Blu-ray chez vous, je vous conseille, hein, c'est bientôt Noël. Je ne dirai pas de marque pour le coup, mais je vous conseille d'utiliser une télé Full HD pour pouvoir profiter pleinement de votre Blu-ray. Alors pour information, cette information-là n'existe pas pour les DVD parce que la norme est trop ancienne, mais en revanche, pour vos Blu-ray, je vous encourage en tout cas à retourner votre Blu-ray et à regarder la résolution qui le supporte. Il est officiellement obligé de le mentionner si c'est du 1080p ou du 1080i. C'est la différence entre les deux, c'est que le I est interlacé, donc il a une ligne sur deux, alors que le P, c'est vraiment de la très haute qualité. Voilà, donc pour information, ceux qui sont des experts en photographie connaissent le format DV, donc le format mini DV, qui est le format quand on prend des photos de type RAW ou des vidéos de très grande qualité. Et en réalité, le mini DV donc, a le même format que le Blu-ray, donc, c'est-à-dire du 1080p. Et aussi un format intermédiaire si nécessaire. Donc, voilà. Donc en gros, si vous avez des Blu-ray, je vous conseille le Full HD. L'UHD, il faut attendre un petit peu. Alors, si pour information, un Blu-ray possède 27 Go de stockage, dit en simple couche. Prochainement, il va sortir. Alors, normalement, ça aurait dû sortir en novembre 2015, mais je n'ai pas réussi à avoir plus d'informations concernant cette date. Il existe des Blu-ray multicouches qui peuvent monter jusqu'à 4 couches d'informations. Et dans ce cas-là, le DVD, le Blu-ray contiendrait 128 gigas. Et donc, ça permettrait au Blu-ray de supporter des films en 4K directement. Donc ça, normalement, ça aurait dû sortir en novembre 2015. Je n'ai pas eu plus d'informations que ça. Donc ça devrait sortir, j'ai envie de dire, soit novembre 2015 avant Noël, soit courant 2016. Voilà, donc ça, oui, pourquoi je vous parle aussi de cet écran et du fait qu'on va avoir des résolutions différentes, c'est que les problèmes de résolution vont induire des problèmes de crénelage, on appelle ça aussi parfois effet d'escalier, donc en anglais aliasing. Donc en gros, c'est lorsqu'on va avoir un cercle, le cercle va être crénelé, on va avoir des marges d'escalier qui vont apparaître. Et pour le résoudre, on est obligé d'utiliser des algorithmes d'anti-aliasing, donc qui vont lisser un petit peu la bordure de notre cercle. Et ces techniques-là consomment énormément de puissance et de calcul. Et donc, dans les jeux vidéo où on doit réaliser ce traitement-là une trentaine de fois par seconde, donc 30 images par seconde, on doit essayer de trouver un compromis entre la qualité et le temps d'exécution. Pour un film au cinéma, a priori, vous n'aurez jamais cette erreur-là, vu qu'au cinéma, on pré-génère les images, mais dans un jeu vidéo où on doit calculer les images en direct, en live, pendant que le joueur est en train de l'utiliser, c'est un réel problème. Donc, on va faire un petit peu de pub. Donc, une des méthodes classiques dans les jeux vidéo qui ont implémenté, c'est la technique dite FXAA, donc le Fast Anti-Aliasing, qui a été développée par le constructeur Nvidia, qui est mise en place dans leur carte. Et généralement, ce FXAA est étendu soit par un mot-clé, soit par un x4, x8. Donc, c'est l'équivalent du mot. Hein. Donc, low, c'est x2, medium, c'est x4, et high, c'est x8. Et donc là, on voit bien ici, sans l'anti-aliasing, on est très crénelé. En revanche, avec le low, ça commence déjà à s'estomper, le medium aussi, et le high est complètement estompé. Donc voilà. Donc ce genre de technique, ça veut juste dire combien de fois on va agrandir l'image pour pouvoir simplifier un petit peu l'anti-aliasing. Voilà. Donc ça, ce genre de problème, on voit bien avec ce genre de problème que dans certains domaines, dans certains usages, cela va avoir une très grande importance, typiquement dans les jeux vidéo ou dans la réalisation de bâtiments archéologiques auxquels les visites virtuelles sont autorisées, par exemple. On n'a pas trop envie d'avoir ce genre d'effet. Alors que au cinéma ou dans les documentaires très spécifiques, ce genre d'information est inutile parce qu'on a le temps de corriger, on a le temps d'appliquer de très très bonnes anti-aliasing dessus pour éviter tout ce genre d'incident. Bon, il faut dire aussi que le cinéma est entièrement codifié. Il y a des formats spécifiques de génération. Donc, tous ces codes font que ce problème-là ne se produira jamais. C'est un bon signe. Si vous voyez des erreurs d'anti-aliasing, enfin d'aliasing au cinéma, c'est qu'il y a eu un problème dans le chaînage. Voilà. Ensuite, on va continuer un petit peu avec ces différences. Donc, les différences majeures entre le cinéma et les autres utilisations. Hein. Donc, tout d'abord, c'est un facteur matériel. Donc ici, vous avez une image d'un supercalculateur. Alors, je n'ai pas retrouvé le supercalculateur utilisé par Disney, mais en revanche, j'ai trouvé des statistiques. Alors ici, c'est Tsubame qui est basé au Japon et qui appartient à IBM, entre autres. Et pour information, donc Big Hero 6, alors en français, il s'appelait Nouveau Héros, les Nouveaux Héros, excusez-moi. Donc ça a été généré sur un supercalculateur de 55 000 cœurs. Alors pour expliquer, je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'un cœur. Un cœur, c'est juste un processeur simple, c'est-à-dire séquentiel, sans hyper-threading, sans autre technologie. Donc, pour information, ce que vous avez à la maison, ce que vous pouvez trouver en grande surface, généralement, vous avez entre 4 et 8 cœurs pour les plus grosses machines qui sont labellisées i7, par exemple. Donc, voilà. Donc, dans le grand public, on a environ 4 à 8 cœurs. Et là, pour calculer ce genre les images pour les nouveaux héros, nous sommes à environ 55 000. Hein, je vous laisse faire le ratio, il est énorme. Donc ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est aussi un facteur humain. On l'a déjà vu, c'est pas le même cycle de développement. En effet, concevoir un jeu vidéo ou concevoir un film d'animation, c'est pas du tout la même chose. Il y a des corps de métier qui sont en plus, en particulier des animateurs, des infographistes dédiés à l'animation. Il y a des personnes qui vont, ils vont faire des projections privées où ces personnes vont contrôler visuellement si il y a bien des anti-aliasing qui sont suffisants, s'il y a des erreurs d'animation, etc., etc. Bon, on peut en trouver. Alors, pour petite anecdote, pour réaliser cette présentation, j'ai dû regarder énormément de films d'animation avec mes enfants. Et j'avais trouvé une erreur dans La Reine des Neiges. Le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps, il a fallu que je recadre un petit peu, que je recoupe. Je n'ai pas réussi à retrouver la scène, mais il y en a une, c'est sûr et certain. Bon, si à l'occasion vous regardez La Reine des Neiges, c'est un moment, c'est quand Anna descend de cheval et en fait, elle a un truc autour du cou qui ne peut pas faire le mouvement parce que ça embarque les cheveux. Je vois que certains ont repéré aussi ce moment-là. Je n'ai pas réussi à retrouver le moment exact et surtout, je n'ai pas eu le temps de compresser le film, enfin de le refaire. Ça demande du temps. Donc voilà, mais bon, ça existe, hein, c'est fait. En fait, ce sont des erreurs qui sont visibles par les contrôleurs, mais qu'ils acceptent parce que ça ne perturbe pas la lecture du film, ça ne perturbe pas la lecture de l'œuvre, et surtout ça simplifie grandement le cycle de développement pour pouvoir respecter les temps impartis. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à la modélisation. Donc la modélisation, qu'est-ce que ça veut dire précisément? C'est la conception d'un objet à l'aide d'un ensemble d'opérations. Donc ça va être représenter un petit peu l'ensemble des opérations qu'on peut réaliser sur l'objet pour pouvoir arriver à l'objet que nous souhaitions. Donc bien évidemment, les opérations vont différer selon le type d'application voulue et selon la modélisation dans laquelle on s'est placé. Donc on avait vu les représentations tout à l'heure. Maintenant, je vous remonte d'autres exemples. Par exemple, on ne va pas modéliser la même chose avec, par exemple, là ici, c'est un scanner auquel on a essayé de générer un modèle 3D d'une tumeur dans le cerveau, enfin des canalisations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un modeleur voxel. On le revoit ici, un autre exemple où on a un scanner de la mâchoire entière. Et ici, on a un exemple de CAO. Alors la CAO, ça veut dire conception assistée par ordinateur. Donc il est utilisé pour fabriquer des. Donc là, c'est un extrait de moteur, d'injecteur plus précisément, où on va modéliser des éléments de manière volumique pour pouvoir réaliser des opérations. Donc ça, l'idée de ce type de CAO, c'est de réaliser un modèle 3D qui est réalisable dans le monde réel. C'est-à-dire que toutes les vis, toutes les petites vis, toutes les pas de vis, tous les écrous, toutes les torsions doivent répondre à un problème de réalité et à savoir qu'on doit pouvoir produire et recréer ce modeleur-là en faisant une vue éclatée, en ayant un petit peu un plan détaillé de ce qu'il faut réaliser. Donc voilà, donc ça, tout ça, c'est la modélisation. Maintenant, on va voir, nous, on va plutôt se contenter, comme je l'ai dit, aux modeleurs dits polygonaux et on va voir différentes opérations sur ces modeleurs. Donc, on va voir un premier type d'opération qu'on appelle plus communément les schémas de subdivision. Donc, à quoi servent les schémas de subdivision? C'est pour lisser rapidement un objet grossier. Donc, comment on va le lisser? On va tout simplement augmenter le nombre de sommets dans cet objet et ensuite, on va déplacer les sommets pour assurer une continuité, c'est-à-dire pour lisser les objets. Donc là, par exemple, ici, hein, je vais utiliser un exemple qu'on appelle le lissage de Catmull-Clark. Et ici, si je vous demande ce que c'est, vous allez tous me répondre que c'est une sphère, tout à fait, c'est très bien. Non, en effet, c'est une sphère un peu grossière, hein, je vous l'accorde, c'est vraiment une sphère, on va en avoir la preuve tout de suite. Hein. Donc juste avant, je vais juste vous rappeler un petit peu les étapes de Catmull-Clark. Catmull-Clark, en d'autres termes, va prendre chaque face de notre carré et va subdiviser de cette façon-là. Donc en gros, on va couper chaque arête en deux et on va insérer un sommet au centre. Et on va répéter ça autant de fois que nécessaire. Et pour tous les nouveaux sommets, nous allons les lisser, les déplacer, les modeler pour pouvoir former quelque chose de lisse. Et c'est automatique. Enfin, il y a un calcul mathématique derrière. Et donc, si on essaye de le faire, on obtient. Ah, zut. Ah, voilà. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas voulu. Donc voilà. Donc ici, on voit bien que c'est une sphère qui se définit en appliquant une, deux, trois. 4. En faisant 4 applications de Catmull-Clark, de ce lissage-là, on voit bien que le cube, donc la sphère grossière, est devenue une vraie boule 3D auquel tout le monde aurait reconnu que c'était une boule. Donc j'étais un peu méchant, je vous l'accorde. Mais bon, un n'est pas tombé dans le panneau. Donc voilà. Donc cette opération est bien sûr réversible et permet entre autres de pouvoir compresser d'une certaine façon des données qu'on veut envoyer de la modélisation, enfin des modèles 3D au travers d'un réseau, on peut utiliser l'opération inverse pour pouvoir grossir, enfin rendre plus grossier une opération afin de pouvoir la passer plus facilement. Donc là, on voit bien qu'il y a une quantité, il y a énormément de sommets qui s'ajoutent. Hein. On ajoute 4, 5, 5 fois 4, 20 fois 8, 160. Donc on en rajoute 160 sommets dans notre sphère. Donc il en est de même hein, pour d'autres exemples. Ici, on voit bien, alors ça, c'est, on appelle ce modèle-là, c'est le singe de Blender. Et il a un petit nom pour les connaisseurs, on appelle ça Suzanne. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est Suzanne. Et là, un autre exemple où on va modéliser un visage. Donc là, c'est vraiment flagrant le fait, et surtout l'arcade. Hein. On voit bien que l'arcade ici est très grossier, et au fur et à mesure où on l'applique, elle s'arrondit considérablement. On remarquera aussi que certains éléments deviennent plus petits. Hein. Donc, par exemple, ici, l'arcade était extrêmement voûtée. Et au fur et à mesure des lissages, certes, on continue à garder un certain placement, mais cette méthode de subdivision ne conserve pas forcément le volume exact de l'objet de départ. Donc ça peut avoir des contraintes, hein, par exemple. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ce modèle-là s'utilise sur des mailles dites carrées, comme je l'ai montré sur mon exemple. Et si on n'utilise pas des mailles carrées, on va avoir des points dits de singularité, donc des points qui ne sont pas très importants en soi, du moins pour l'opération de lissage, mais qui peuvent poser de réels problèmes quand on va faire de la simulation mécanique, car une singularité signifie en d'autres termes qu'on va avoir pour un sommet énormément de faces adjacentes, donc qui lui est liée. Et pour réaliser des simulations de ce genre d'éléments, ça pose de gros problèmes. Donc en fait, en réalité, il existe plusieurs types de schémas de subdivision. Donc on va en voir un deuxième qui est dédié au triangle, qu'on appelle le lissage de Loop, de son auteur, c'est Monsieur Loop, qui est dédié au triangle. Donc ici, on a une formule auquel un triangle auquel on va subdiviser le triangle intérieur de cette façon-là, et on va réappliquer la même méthode tout en déplaçant les objets. Donc là, j'ai repris le singe Suzanne, et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, avant de faire mon application de subdivision, j'ai des mailles carrées, je suis obligé de les trianguler et ensuite de réaliser l'application. Donc les trianguler, ça veut dire transformer les mailles carrées en mailles à base de triangle. Donc là encore, il y a plusieurs opérations possibles. Mais on voit que l'opération de triangulation l'autorise et on obtient un résultat qui est légèrement différent, mais tout à fait lissé. Donc là, c'est ça qui est important aussi, lissé. Donc ça, c'est un lapin auquel je l'ai lissé globalement. Donc c'est bien, maintenant on a réussi à affiner, à lisser notre objet, mais pour l'instant, on n'atteint toujours pas on peut pas visualiser des détails, donc des détails en particulier des arêtes fortes, des arêtes nettes sur notre objet. Et pour cela, on utilise des techniques de sculpture, enfin provenant de la sculpture. Pour sculpter des objets. Et en gros, cela permet de modifier finement des maillages déjà subdivisés. Alors, je ne suis pas un artiste, donc j'ai pris un exemple que j'avais trouvé sur Internet, qui était assez bien. Donc là, il a réalisé un modèle grossier. Bon, on devine à peu près qu'est-ce que ça va donner au final, mais nous allons voir précisément ce qu'il va faire. Donc, il a déjà subdivisé une certaine partie, un certain nombre de fois en utilisant le lissage 4 moules Clark. Bon, je ne l'ai pas refiguré ici, ce n'était pas la peine, je pense qu'on a tous très bien compris. Et il va utiliser dans le modeler différents outils pour sculpter. Et alors, il faut savoir que Blender en fournit 18 de base, puis on peut. Alors, Blender, c'est un outil de modélisation 3D libre, donc vous pouvez tout à fait le télécharger et l'utiliser sur vos machines si cela vous intéresse. Si vous avez une âme d'artiste en tout cas. Et donc on peut ensuite les étoffer. Donc au fur et à mesure, il va appliquer ces objets-là. Il va utiliser, donc ici on voit un petit peu l'objet de sculpte. Donc là on voit bien qu'il va sélectionner un sommet et l'extraire, l'étirer du maillage. Donc là il va l'appliquer en particulier pour le nez en utilisant un tout petit peu. Et ensuite il va le peaufiner au fur et à mesure. Donc là il a fait des rainures fortes, donc retirer de la matière et ainsi de suite. Et donc on arrive à ce genre de résultat où là on devine très bien que c'est une tête de chat, assez bien modélisée pour le coup. Donc voilà, donc ça c'était différentes opérations de modélisation. Maintenant, pour aller à la prochaine étape, il nous faut tout d'abord essayer d'ajouter de la couleur, hein, parce qu'on a très souvent cette couleur gris qui est propre au modèle 3D, qui est assez triste, je vous l'accorde. Donc on va essayer d'égayer un petit peu tout ça en mettant de véritables textures, hein, on le sait tous. Par exemple, un chat, on aurait voulu mettre un pelage particulier ou autre. Et donc pour cela, on est obligé de faire appel à ce qu'on appelle des textures, donc avec la technique de plaquage de textures. Donc, quel est le problème avec les textures? C'est qu'on va vouloir placer une image 2D sur un objet 3D. Et donc là, on voit tout de suite qu'il y a un problème de dimension. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter le fait que l'objet 3D est subdivisé en face, et on va plaquer un morceau d'image 2D sur cette face-là. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, c'est la technique de plaquage de texture. On va plaquer un morceau d'image sur chaque face du volume. Donc, on a des techniques pour essayer de simplifier un petit peu toute la mécanique. Et pour ce faire, il faut pouvoir déplier un modèle 3D. Donc, il existe déjà plein d'algorithmes de dépliement. Donc, ici, j'ai un exemple où j'ai représenté un visage et j'ai déplié tout le visage qui avait plusieurs arrondis et je l'ai déplié en une seule image. Voilà. D'accord ? Donc ça se fait automatiquement, enfin maintenant, pas à l'époque. Et maintenant que j'ai cette image-là, l'image à droite, je vais pouvoir la remplir avec une texture particulière. Donc pour le faire, j'ai pris un exemple ici. Donc ici, on peut voir une image de texture qui est un peu bizarre. C'est ce côté bizarre, hein, c'est symétrique, c'est lié au dépliement. Et ici, j'ai pris un modèle auquel je lui ai appliqué au niveau de ses vêtements. Je lui ai appliqué la face avant et la face arrière. Et on peut voir encore que j'ai dû déplier le ventre et le dos sur les textures. J'aurais pu faire de même pour tous les autres objets. Et lorsque j'ai fini mon traitement, on voit bien que je passe du modèle global à gauche au modèle texturé à droite. D'accord ? Donc là, on a bien un modèle, on a vu les opérations qui nous permettaient d'avoir un modèle, la technique de plaquage de texture pour avoir un modèle texturé. Et il faut savoir que ces textures sont utilisées de plus en plus fréquemment pour réaliser autre chose que plaquer des textures. Donc c'est assez drôle. Et une des méthodes qui est apparue, c'est la technique de tessellation-modélisation. Donc cette méthode-là est apparue sur DirectX 11. Donc DirectX 11, c'est la bibliothèque 3D de Microsoft. Microsoft étant le développeur, enfin la marque ayant développé le logiciel Windows, votre système d'exploitation. Et ils ont aussi une console qui s'appelle la Xbox One actuellement. Et ils ont développé énormément de jeux. Donc pour cela, ils utilisent cette bibliothèque-là. Et l'idée qui se cache derrière cette bibliothèque, c'est de complexifier une scène par rapport à une carte de relief. Donc qu'est-ce que c'est qu'une carte de relief ? C'est juste une texture en exploitant uniquement les couleurs allant du blanc au noir en passant par le gris. Et là, cette texture-là, elle va contenir un certain relief dont la hauteur du relief est dépendante du niveau de gris, on appelle ça comme ça, du niveau de gris de la texture. Donc par exemple, ici, j'ai pris un carré. J'ai juste pris un carré et je lui ai dit « Applique-moi le relief de cette contenu dans cette texture. » Et il m'a extrapolé tous les petits pics ici. Et on peut voir que la hauteur du pic intermédiaire est égale au niveau de gris associé. Donc quand c'est blanc, c'est tout en bas, donc ça n'a pas touché à ma texture. En revanche, quand c'est noir, la texture a un pic à son plus haut sommet. Donc cette technique-là, elle peut paraître un petit peu obscure là directement, donc on va le voir sur un exemple. Donc c'est une vidéo que j'ai utilisée, que j'ai générée en Full HD avec le moteur Unigine qui permet de tester le matériel. Et donc c'est une technique qui permet de tester le matériel. Et donc c'est une technique qui est calculée en live. C'est ça qui est important de comprendre. C'est du direct. Donc là vous le voyez pas forcément haut à droite, mais je suis à 96 images par seconde, c'est-à-dire que mon ordinateur a calculé 96 fois la même image en une seconde, ce qui est énorme. Et l'idée, on ne le voit pas ici, mais cette texture, la texture de tessellation, existe, elle est plaquée ici, elle est invisible pour nous, mais vous allez voir son impact sur les machines. Donc là, je vais lancer la vidéo. Donc voilà. Donc là, on le voit. Donc ce que je fais là, c'est que je m'amuse à jouer avec le coefficient multiplicateur du relief. Et on peut voir que la texture de relief va donner à toutes les pierres un certain relief. Bien évidemment, j'exagère un petit peu hein, quand je pousse le curseur à fond. C'est pour ça qu'on a un effet assez bizarre. Mais quand on joue correctement, on a une image réelle qui s'approche de la réalité, auquel on va avoir vraiment une impression que les pierres sont posées à la main avec une texture un peu particulière. Et donc ça, c'est une tessellation, c'est une méthode qui est apparue récemment et qui n'est pas encore pleinement exploitée dans les jeux vidéo, mais qui l'est au cinéma. Et c'est surtout applicable partout, alors aussi bien sur les tuiles, on ne le voit pas très bien, mais si, quand je vais exagérer, on va voir quelque chose qui bouge, aussi bien pour les pavés ou pour les murs. Et donc ça, c'est des textures qui sont invisibles pour nous, mais qui existent et que le logiciel est capable d'interpréter dynamiquement. Un dernier point, c'est que ces méthodes, bien évidemment, comme nous pouvons l'activer ou ne pas l'activer, ça permet de tenir compte des ressources de la machine dans laquelle on calcule. Rappelez-vous, hein, Batman Arkham Knight qui a eu des problèmes de mise sur le marché à cause des problèmes d'exécution. Donc là, ce processus est extrêmement gourmand, donc on peut le désactiver ou l'activer. Ah, c'est pas mon signe. Ah, voilà. Bon, maintenant qu'on a vu les animations. Oh, suite. Allez. Voilà. Donc, maintenant que nous avons vu la modélisation, que nous sommes arrivés à un certain niveau de spécificité dans notre texture, dans notre modélisation 3D, que nous avons plaqué une texture, qu'on avait vu qu'on était capable de réaliser de grosses scènes, il nous reste à parler de l'animation. Alors l'animation, ça fait partie de la notion de frame. Alors j'en ai déjà parlé, mais maintenant je vais en parler plus précisément. Donc une frame, c'est une image calculée par l'ordinateur qui va représenter une fraction de temps. Donc un snapshot, on va découper notre échelle de temps en petits morceaux, et une frame, c'est une image de ce pas de temps. Et donc la première méthode pour animer un objet, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les positions par clé. En anglais, on appelle ça des courbes IPO. Et ici, par exemple, j'ai pris un Rubik's Cube auquel je vais donner à mon logiciel les trois points d'animation. Donc le premier, c'est sa position initiale. La fin, c'est sa position d'arrivée, donc celle-là. Et celle du milieu où j'ai retourné tout le cube, où j'ai tourné à 180 degrés, donc j'ai fait un demi-tour à mon cube, donc on voit la figure jaune. Et j'ai demandé au logiciel de calculer toutes les frames, toutes les images intermédiaires, et je lui ai dit, génère-moi une vidéo de ça. Donc on obtient l'animation qui est ici, qui est parfaitement fluide, juste à partir de trois points d'animation. Donc cette méthode-là est extrêmement pratique, hein, quand on sait la maîtriser. En revanche, quand on va ici, là, j'ai utilisé un Rubik's Cube qui est une image, qui est un modèle assez simple, mais quand on va utiliser des objets qui commencent à avoir une hiérarchie, hein, donc typiquement, ah oui, excusez-moi, encore une fois, un changement de présentation. Donc l'intérêt de ce genre d'approche, c'est qu'on peut modifier un petit peu cette courbe d'animation, cette IPO. Donc ici, vous avez la version originale qu'on vient juste de voir, et ici, j'ai un tout petit peu modifié le comportement d'interpolation par, alors l'interpolation c'est le calcul des images intermédiaires, donc la méthode d'interpolation par mon logiciel en disant marque-moi un temps d'arrêt avec un mouvement élastique, on le voit ici, on voit bien qu'il bute un petit peu sur la partie jaune, il a un petit mouvement élastique avant de continuer, de repartir vers la version finale pour continuer son animation. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est la même durée, c'est le même modèle, c'est la même animation, on a juste réalisé, merci beaucoup. On a juste demandé au logiciel de marquer un temps d'arrêt, un temps de pause plus ou moins réaliste, en rajoutant cet effet élastique. Et donc, c'est entièrement le logiciel qui a pu gérer ça. Donc ça, c'est pratique quand on veut utiliser de la modélisation, de l'animation sur de la modélisation assez simple. En revanche, quand on veut utiliser une armature plus réaliste comme un corps humain, on a besoin d'utiliser des techniques un peu plus avancées d'animation qu'on appelle les techniques de squelettage. Voilà. Donc cette idée, c'est d'ajouter une armature, donc qu'on va appeler plus ou moins le squelette, à une structure complexe. Cette idée, c'est de hiérarchiser un petit peu les structures complexes. En d'autres termes, si je bouge le bras, on voit bien que l'avant-bras et la main vont suivre le mouvement de mon bras, ce qui est logique, vu qu'ils sont accrochés. Donc là, c'est cette idée qui se cache derrière. Donc j'ai utilisé Make Human pour créer un humain. Et ensuite, cet humain, une fois qu'il est arrivé à un niveau de satisfaction, enfin c'est plutôt une poupée pour vous dire la vérité, je lui ai greffé différentes armatures, donc différents os. Alors je ne les ai pas tous représentés, j'ai utilisé des techniques classiques de génération d'os, mais vous pouvez voir que c'est les petits morceaux à l'intérieur, donc là on voit bien le fémur, le tibia, la colonne vertébrale et ainsi de suite. Et une fois que j'ai réalisé ça, j'ai pu demander à mon logiciel d'animation de générer des mouvements en bougeant uniquement les os, comme on le ferait avec un humain réel. Donc là, en bougeant uniquement l'humérus, j'ai pu bouger l'avant-bras et ainsi que la main du même mouvement. Donc là, on voit bien que je lui ai demandé de calculer différents points. Donc là, je lui ai demandé plusieurs points. On va voir l'animation tout de suite. Donc voilà. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que le fait d'avoir une armature ne corrige pas les problèmes d'animation. Ça permet juste de hiérarchiser l'animation, de simplifier la méthode d'animation. En revanche, là, vous voyez, hein, quand il fait coucou, je fais exprès de lui casser le poignet. Hein. Bon, ici aussi, hein, pour vous dire la vérité, quand je lève le bras, je lui fais assez mal au torse. Donc, c'est le squelette ne va pas contraindre plus que ça les mouvements réalistes. Alors, sur certaines méthodes, sur certains logiciels, c'est possible, mais ça reste encore assez rare et c'est très difficilement calculable, on va dire. Et donc voilà. Donc ça permet quand même de faire des animations. C'est à nous, animateurs, de faire attention lorsqu'on va faire ce genre de mouvement. Voilà. Il existe enfin une dernière catégorie d'animation possible, ce qu'on appelle les simulations physiques. Donc le but de la simulation physique, ça va être non plus d'utiliser un facteur humain qui va donner les mouvements au cas par cas d'une certaine façon ou d'une autre, mais de lui donner un ensemble de formules physiques particulières, donc par exemple la dynamique, et de lui donner un modèle physique particulier. Et ensuite, il va pouvoir jouer tout seul, travailler tout seul et ignorer toutes les informations de l'infographiste. Donc ça c'est extrêmement pratique quand on veut utiliser un monde ouvert auquel on va autoriser l'utilisateur à faire tous les mouvements possibles. Et enfin, en revanche, il faut bien comprendre que ces méthodes de simulation physique sont basées sur un pas de temps discrétisé qui vont avoir son importance. Alors pour information, non, à titre d'exemple, un moteur physique qui s'appelle SOFA, qu'on utilise avec des grenoblois pour animer des mouvements, enfin le comportement c'était un foie, mais on aurait pu le faire avec différents éléments. Il tourne à plus de 4000 Hz, donc ça signifie qu'on a un pas de temps qui est plus petit de la seconde, plus petit que la milliseconde, pour calculer les différentes frames, les différentes images de notre simulation. Aussi, là, la difficulté de cette méthode, c'est bien évidemment, c'est le modèle physique. Et en d'autres termes, ce modèle physique va être dépendant de ce qu'on veut animer. Donc un premier exemple, c'est un tissu, animer un tissu, où là on va plutôt privilégier des méthodes de simulation rapides, comme les masses ressorts par exemple, et une masse surfacique par exemple, qui nous permet d'avoir des comportements assez réalistes. Donc là en revanche ça va poser des problèmes dits pour la fracture, c'est-à-dire si on étire un peu trop le tissu et qu'il se déchire, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc ça c'est ce qu'on appelle de la simulation de fracture, on commence à avoir des solutions là-dessus. Ensuite, ce qu'on appelle la simulation de fluide. Alors là, ce n'est plus les formules de la dynamique qu'on va utiliser, de la mécanique standard, mais c'est plutôt les équations de Navier-Stokes pour les fluides. Alors quand on entend fluide, on dit des liquides, et on inclut les fumées aussi qui répondent à ce genre de contraintes. Donc là, par exemple, on a mis une colonne d'eau et on a demandé au logiciel de simuler qu'est-ce qui se passe quand on va relâcher cette colonne d'eau. Et donc là, on voit bien que la colonne d'eau s'affaisse complètement, s'écrase et ensuite remonte sur les bords avec des remous. Donc ça, c'est un modèle de physique à part entière qu'on appelle les fluides. Et alors, pour information, la neige était considéré comme un fluide, mais pas complètement, hein, qui a un comportement particulier. Et il faut savoir que Disney a sorti, donc en 2013 pour la Reine des Neiges, un modèle physique complet dédié à la neige. Donc c'est ce modèle-là qui a été utilisé dans la Reine des Neiges, entre autres, et qui permet de simuler le modèle réaliste de la neige. Donc là, ici, on a bien une boule de neige, un personnage, et on voit bien que la boule tombe en faisant des amas de neige, comme dans la réalité. Donc ça, il faut le savoir, ça a été fait en 2013. Le papier est passé à SIGGRAPH, donc une très grande conf internationale. Et ça a donné lieu d'ailleurs à un nouveau moteur de rendu qu'ils ont inauguré, qui s'appelle Hyperion. Enfin bon, bref, c'est des anecdotes supplémentaires. Donc ça, c'est un cas particulier. Hein, c'est juste un cas particulier. Sinon, ce qu'on utilise plus communément, aussi bien dans les jeux vidéo que pour réaliser des animations secondaires au cinéma, c'est ce qu'on appelle les méthodes dynamiques classiques, où on va considérer des corps rigides ou déformables à petite échelle, enfin quasi rigides. Et dans ce cas-là, on va pouvoir réaliser des animations entièrement. Donc là, ici, si je lâchais le cube à cet endroit-là, il dévalerait toute la pente et se cognerait contre la petite montagne de briques. Donc ces méthodes de simulation-là sont réalisables, on les développe, d'ailleurs on en développe certains. certaines. Alors, il faut savoir que dans les jeux vidéo, ces temps de calcul étant très, très courts, hein, très compliqués à réaliser, dans les jeux vidéo, on va devoir quand on intègre un moteur physique, on va devoir faire des simplifications, en particulier pour faire des calculs de collision, pour savoir quand est-ce que les objets vont s'entrechoquer. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des hitbox, donc des boîtes de collision qui sont très simplifiées. Donc ici, j'ai repris un jeu vidéo qui s'appelle Enemy Territory, et auquel on voit le personnage qui est dessiné, qui est modélisé de manière très précise. Et j'ai illustré les différentes boîtes de collision. Donc on peut voir qu'il a une seule grosse boîte pour tout le corps, qui est un gros carré qui dépasse d'ailleurs les épaules. Idem pour la tête, idem pour les bras et les jambes, parce qu'il doit prendre en compte tous les mouvements. Et ces boîtes-là sont grossières, mais ils nous permettent de calculer des interpénétrations très rapidement, et donc de pouvoir réaliser un moteur physique assez réaliste. Donc là, c'est un jeu, c'est Team Fortress 2, qui est un jeu beaucoup plus récent, et on peut voir que les boîtes de collision sont multiples. Donc d'ailleurs, le corps a été divisé en 1, 2, 3, 4, 5, en 5 boîtes de collision, uniquement pour le ventre. Donc c'est très détaillé. Donc c'est pour ça que l'évolution se fait. Alors, il faut savoir que ces fameuses hitbox engendrent énormément de frustration pour les joueurs, à cause de cette difficulté, à cause de cette simplification. Donc par exemple, là ici vous voyez, je suis un fier guerrier monté sur ma monture, prêt à défendre la veuve et l'orphelin. Et en fait, très souvent, il va se passer ce genre de détail où je vais, donc là vous voyez, hein, on ne voit plus que l'arrière de mon cheval qui s'est complètement enfoncé dans le sol. Pour information, je suis encore dessus, hein, enfin bref. Donc voilà, donc les hitbox engendrent de très gros problèmes dans les jeux vidéo. Bon, dans les jeux vidéo, généralement, on met des méthodes de contournement. On va dire, par exemple, quand on est trop enfoncé dans le sol, eh bien, on te remonte un petit peu. Mais bon, ce genre d'histoire est pléthore dans le monde du jeu vidéo. Donc par exemple, ici, je suis un personnage qui est capable de monter une montagne à plus de 80% de dénivelé. Enfin, c'est complètement impossible, debout, sans problème. Ou ici, donc c'est Tomb Raider, je suis en lévitation au-dessus du sol et je ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Donc là, je reste au-dessus du vide, je suis capable de voler. Bon, voilà. Donc ce genre de problème de hitbox est monnaie courante dans les jeux vidéo, mais il faut les accepter. Alors je suis entièrement d'accord, ça engendre beaucoup de frustration, le fait de devoir recommencer sa partie parce que ça s'est mal passé. Mais au moins maintenant, vous comprenez pourquoi ça se produit, pourquoi ça se passe comme ça. Donc voilà. Donc on va simplifier, on va résumer un petit peu ce qui s'est passé pour l'instant. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a ? On a vu différentes scènes de cinéma. Donc il faut savoir, généralement, ils mettent des armatures pour essayer d'imaginer, pour aider l'acteur à jouer de manière plus véridique, mieux pour face à des modèles 3D qui n'existent pas, qui n'ont pas encore été intégrés, vu que généralement ça se fait dans une deuxième phase qu'on appelle la phase de post-prod, donc post-production. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On va pouvoir insérer le modèle 3D via des techniques d'incrustation. Et voilà. Donc là, on a un très beau film, hein, vous voyez tout de suite qu'il y a un petit souci. C'est qu'on voit tout de suite que ça... ça c'est intégré, ça se voit tout de suite. Mais bon, je n'ai pas été beaucoup plus loin dans ma présentation. On a respecté, on a fait un modèle 3D réaliste qui reprend bien la réalité. On a plaqué des textures dessus et donc j'ai jamais été plus loin. Et en fait, il nous reste à voir le dernier point. On l'a possiblement animé correctement. C'est une image, on ne le voit pas très bien. Mais on l'a peut-être animé correctement. Et donc, il nous reste un dernier point à voir, ce qu'on appelle dans notre jargon le rendu. Donc c'est un ED209 de Robocop 2014. Enfin, j'ai beaucoup regardé Robocop. Donc voilà. Pas excellent film, mais bon, c'est pas grave. C'est un blockbuster avec beaucoup d'effets spéciaux. Donc pour préparer cette présentation, je me suis dit c'était parfait. Et donc en fait, tous ces aspects-là, le fait d'intégrer de la fumée, le fait d'ambiancer un petit peu la scène vis-à-vis du mur, du contact, du contexte de l'application, tout ça, ça porte un terme dans notre jargon, ça s'appelle du rendu. Et l'idée, c'est de sublimer l'image, donc d'ambiancer l'image, afin avec différentes techniques de modélisation. Et on va continuer là-dessus. Donc, avant de démarrer, un aspect que je n'ai pas parlé dans la phase de modélisation, c'est bien évidemment l'influence des matériaux. Donc, on le sait tous, chaque matériau va filtrer la lumière d'une certaine façon, donc c'est-à-dire calculer les... Alors oui, je ne l'ai pas dit, c'était la simulation d'éclairage. J'ai oublié de mentionner... Ça me paraît évident que le rendu, c'est de l'éclairage, mais bon, bref. Voilà. Donc en fait, chaque matériau vont réagir de manière différente face à la lumière quand on va l'éclairer. Et il faut savoir que ce modèle-là a déjà été étudié il y a fort longtemps. Et donc, pour un matériel P, si on a... Alors, c'est des soleils. Donc, les soleils signifient des sources lumineuses omnidirectionnelles. Ce n'est pas forcément le soleil. Hein, on n'a pas de soleil sur Terre. Mais ça veut juste dire une source lumineuse omnidirectionnelle, c'est-à-dire qui part dans tous les sens. Et donc là, on va avoir deux sources lumineuses qui vont frapper un certain matériel P, donc n'importe lequel. Et ce matériel P va réfléchir une certaine partie de la lumière. Juste une petite partie. Et c'est la façon à laquelle il va réagir... la partie qui va réfléchir, qui va nous arriver dans les yeux, qui va nous permettre de reconnaître si c'est quelque chose de très brillant, qui n'est pas très brillant, de quelque chose de mat, quelque chose qui est en relief, qui a des microfacettes ou pas. Donc c'est cet aspect-là. Et ça, ces formules, donc c'est les formules de Descartes, sont connues depuis très longtemps et on les applique. Donc d'ailleurs, même pour aller plus loin, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, dans la lumière, globalement, on peut identifier deux types de lumière. Ce qu'on appelle la lumière diffuse, donc c'est-à-dire la lumière de l'objet quand on ne le regarde pas directement, et ce qu'on appelle plus communément la lumière spéculaire, c'est-à-dire qui va avoir un petit point blanc pile en face de la source lumineuse. Donc là, par exemple, si on reprend cette boule-là, on voit bien que la sphère lumineuse, elle est ici, et ce petit point blanc, ça représente la spécularité, c'est-à-dire la réflexion directe de l'origine de la lumière. D'accord ? Donc, en faisant ces deux méthodes-là, en utilisant aussi bien l'aspect diffus, c'est-à-dire l'aspect de base, et l'aspect spéculaire, nous sommes capables de réaliser des calculs d'éclairement, de la simulation d'éclairement basée physique, donc basée sur les lois réelles de la physique, pour générer des images toujours de plus en plus réalistes. Et pour ce faire, on va discrétiser un petit peu les lumières qui vont nous arriver. Donc on va voir un exemple qu'on appelle le path tracing. Et l'idée qui est derrière le path tracing, c'est qu'on va faire le chemin inverse des rayons du soleil et dans le but d'éviter des calculs inutiles. Donc bon, si c'est un peu, ça va devenir beaucoup plus clair avec un exemple concret. Donc là, par exemple, j'ai mon soleil, j'ai une scène et on va considérer un rayon du soleil. Donc ce rayon-là va rebondir sur différents éléments, et en rebondissant, il va communiquer une certaine énergie qui va nous servir à éclairer une petite zone. Donc c'est pour ça qu'ici, on voit bien la zone, ici, on voit l'autre zone, une autre zone, une autre zone, et ce niveau d'éclairement, cette contribution, on appelle ça, cette contribution va aller de manière décroissante au fur et à mesure où on va faire des bonds. Et comme c'est une source lumineuse omnidirectionnelle, on va réappliquer cette mécanique pour tous les rayons possibles. Donc ça en fait beaucoup trop, hein, je ne les ai pas tous représentés. Mais on voit bien qu'en réalisant cette mécanique-là un petit peu partout, en réalisant tous les bonds, donc ça c'est ce qu'on appelle la technique de lancer de rayons. On va lancer des rayons et voir où ça tape. On est capable d'éclairer toute une scène en entière. Le problème, c'est que quand on va placer une caméra, on va juste visualiser non pas l'intégralité de la scène, mais une petite zone particulière. D'accord ? Donc cette petite zone, idéalement, nous voulons capturer en particulier les rayons de soleil qui rebondissent sur les matières et qui arrivent jusqu'à la caméra, qui va être notre œil dans ce cas de figure. Et donc, le path tracing prend en considération cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il va considérer uniquement les rayons qui arrivent à la caméra. Donc là, on va considérer uniquement les rayons qui arrivent à la caméra et on va faire leur chemin inverse pour calculer la contribution lumineuse. D'accord ? Et donc, en considérant uniquement ces méthodes-là, on le voit tout de suite, il y a énormément de rayons qu'on ne va pas considérer, qu'on ne va pas calculer dans la simulation d'éclairage. Et donc, c'est comme ça qu'on va rendre des calculs de simulation d'éclairage plus rapidement qu'on aurait dû le faire si on avait utilisé un lancer de rayon comme je l'avais présenté initialement. Donc ça, c'était pour la méthode. Je n'irai pas beaucoup plus loin sur la simulation d'éclairage, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais j'aimerais surtout vous présenter quelques résultats. Donc les résultats de path tracing sont très facilement reconnaissables Parce que si on ne les laisse pas s'exécuter suffisamment longtemps, alors le suffisamment longtemps est tout à fait relatif à l'algorithme et à différentes heuristiques qu'on utilise, mais généralement c'est de l'ordre de la dizaine de minutes à plusieurs heures. Voilà. Donc on a une image très granulaire, donc ça se voit beaucoup à cet endroit-là, où je ne l'ai pas laissé suffisamment longtemps, donc j'ai une certaine granularité avec des lobes lumineux extrêmement marqués. En revanche, si je laisse l'algorithme tourner beaucoup plus longtemps, ben, au bout d'un moment, j'aurai une certaine fluidité dans les changements lumineux à ce moment-là. Et il en est de même. Donc ici, j'ai pris une scène avec juste les lumières directes, enfin les lumières primaires. Et ensuite, je l'ai laissé tourner beaucoup plus longtemps pour arriver à ce genre de scène. Alors là, pour le coup, je l'ai laissé vraiment tourner plusieurs heures. Donc ça m'a donné ce genre de résultat. Donc la simulation d'éclairage, donc pour pouvoir apporter des effets visuels ou autres, c'est exactement ce genre de technique qui est utilisé. C'est le genre de technique qui a été utilisé pour réaliser Big Hero 6, pour utiliser dans Vice Versa. Donc tous les studios Pixar utilisent ce genre de technique de path tracing. D'ailleurs, ils sont allés un peu plus loin, parce que maintenant ils exécutent, alors juste pour information, les rayons qui partent ici, en fait ils les font par paquets. Donc c'est la nouveauté qui s'est réalisée pour le Vice Versa et qui va se réaliser pour le prochain Pixar qui s'appelle le Voyage d'Arlo. Très bien, merci. Où ils ont utilisé une nouvelle méthode de segmentation de ces rayons pour pouvoir calculer plusieurs rayons simultanément. Donc c'est une très grosse technique, ça a été publié dans le papier faisant référence au moteur de rendu qui s'appelle Hyperion, donc une continuité. Et donc voilà, quand vous irez au cinéma, si vous allez voir Le Monde d'Arlo, vous pourrez dire « Ah, on m'a parlé d'Hyperion et de ces techniques de méthode de rendu ». Super. Bon, on va dire en fin de conversation alors. Bref, donc aussi, il faut savoir que ces techniques de path tracing sont utilisées pour ambiancer une scène. Donc, comment on va ambiancer une scène ? Eh bien, pour ambiancer une scène, on va devoir le faire en deux fois. Donc ici, on va avoir une image dite globefish, enfin une image qui va être prise à 360 degrés et dépliée. Donc, il y a du matériel qui permet de réaliser, enfin, il y a des appareils photo qui permettent de prendre des images à 360 degrés. Et donc, ici, je l'ai pris dans une galerie d'art, ici, dans une cathédrale. Alors, ce n'est pas moi qui les ai faits, hein, c'est un collègue qui s'appelle Michael Ribardière, que je remercie parce que j'ai dû l'embêter un petit peu pour ça. Dans une cathédrale et une autre, c'était dans une galerie vide, enfin, un autre endroit de la galerie qui était entièrement vide. Et l'idée, c'est qu'il va proposer une scène, la même scène, et il va demander au logiciel de path tracer de remonter les rayons qui sont visibles. Donc il les sort de la caméra, ça tape un objet 3D, ça rebondit dans tous les sens, jusqu'à atteindre un point lumineux de la scène. D'accord ? Donc ici, on voit bien les points lumineux. Il y a un point lumineux ici, un autre point lumineux là. Pour les cathédrales, c'est beaucoup plus particulier parce qu'on en a... plusieurs à différents endroits, donc les petits vitraux et les éclairages artificiels qui sont là. Et pour cette galerie-là, nous avons une principale qui est juste en face, puis quelques petits points lumineux, points d'éclairage secondaires. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on utilise un path tracer avec une... alors, c'est ce qu'on appelle une carte d'environnement, quand on prend ce genre d'image, et on lui dit « fais-moi un path tracer en utilisant cette carte d'environnement », eh bien, on va voir des différences nettes d'éclairage, de simulation. Et donc là, on voit bien, ici, qu'on est éclairé... c'est très granulaire, hein, je suis désolé, j'aurais dû le laisser tourner plus longtemps. Donc ici, on voit bien que c'est une lumière assez réaliste, assez proche du soleil, une lumière blanche assez standard. Ici, on voit très clairement que c'est une lumière artificielle, hein. On le sent assez bien. Et ici, c'est un petit peu ambigu entre les deux. Donc ça expliquerait, hein, les grandes parties de fond noir qui vont se répliquer là-dessus. Donc voilà. Et donc c'est en utilisant ce genre de technique où le cinéaste, au moment où il filme, va avoir une caméra Globevish qui va prendre l'ambiance de toute la scène et va utiliser ces techniques-là pour pouvoir améliorer, pour pouvoir ambiancer une scène 3D avec l'ambiance réelle, donc en particulier les interréflexions sur le métal, si on avait un objet en métal, on va pouvoir le répercuter là-dessus. Donc pour conclure, on avait vu que la modélisation 3D est au final une seule étape parmi tant d'autres. Donc en effet, hein, que la modélisation pour réaliser un produit final, la modélisation n'est qu'une étape, mais on va utiliser plusieurs domaines scientifiques différents, à savoir le rendu, la modélisation géométrique, des techniques de traitement d'images, même si j'en ai pas beaucoup parlé, je les ai montrées rapidement. L'utilisation de ces objets commence à venir dans notre quotidien et vont même aller plus loin. Donc là, ici, c'est une image de 3D utilisée par Google Maps, auquel Google Maps, à partir des données d'images, est capable de modéliser des vrais bâtiments et de plaquer les textures dessus de manière automatique. Alors, le résultat n'est pas parfait, hein, on reconnaît bien ici l'hôtel de ville. Mais à terme, l'idée, c'est d'utiliser ce genre de technique directement sur un smartphone, de façon à ce que quand vous vous déplaciez dans la rue, vous puissiez prendre des repères directement, un objet 3D sur votre smartphone avec l'immeuble réaliste en face de vous, grâce à des techniques automatiques. Une autre méthode aussi, c'est d'utiliser des micro-robots, des nano-robots, à l'intérieur de votre corps pour suivre l'évolution de vos différents organes et visualiser en direct sur un ordinateur pour faire du suivi à distance, du suivi médical à distance, ce qui se passe correctement. Voilà. Merci à tous. Donc, si vous avez des questions...
Ça veut dire qu'avec tous les outils mathématiques que vous avez déjà présentés, la cartographie n'est plus tellement utile. On est très très loin des méthodes trigonométriques. On va pouvoir se repérer n'importe où sans même avoir besoin d'un GPS. Il suffira de se centrer sur telle ou telle fenêtre et puis Google Maps vous dira exactement où vous êtes. C'est un peu ce que vous étiez en train de nous expliquer.
Voilà, c'est vrai. Oui, il y a ce genre de choses. Alors ça, c'est vrai. Alors c'est ce qu'on appelle la reconnaissance faciale ou la reconnaissance d'objets. Et c'est un des buts. C'est l'idée, c'est quand on est perdu à un endroit, on peut scanner un bâtiment et ça va retrouver le bâtiment voulu pour pouvoir le mapper directement. Donc c'est de la reconnaissance de forme, en effet. Alors c'est pas directement de la modélisation 3D en informatique graphique. C'est plutôt du traitement d'image. Mais c'est le but, enfin c'est un des buts de Google là-dessus.
Il y avait une application qui existait comme ça.
Alors il existe plusieurs applications, oui. Alors en particulier de Microsoft, c'est la fameuse Kinect qui se branche, auquel les chercheurs utilisent fréquemment cette Kinect pour faire de la reconnaissance faciale et de la transposition d'émotions. Donc ça, c'est un collègue, par exemple Pascal Bourdon, travaille là-dessus, il prend une webcam en face et sourit, et son avatar va sourire aussi dans un monde virtuel. Et ainsi de suite. Donc, c'est de la reconnaissance faciale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple là tout de suite ? Non, je n'ai pas d'autres exemples dans l'immédiat. Il y avait une autre question ici ?
Oui, excusez-moi, c'est très intéressant, mais à mon sens, il manque un domaine de réflexion. Je pense à Tocqueville, à Fahrenheit 451, à Orson Welles, à Matrix. Et je me dis, c'est bien, mais pourquoi faire ? Ou est-ce que l'homme se perd dans une ville, c'est embêtant, mais on peut découvrir les trucs. Et quid de cette technologie dans un régime dictatorial ?
Alors, c'est une question assez philosophique. C'est vrai qu'elle mérite d'être posée. C'est très souvent ce genre de questions qui ne sont pas forcément posées par les chercheurs. Je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que ce genre de questions peut faire l'objet de longues discussions. Donc là, dans l'immédiat, je suis désolé, je ne peux pas... Mais merci d'avoir posé la question. C'est vrai que c'est ce genre de questions. Où est, après, au bout d'un certain temps, avec toutes ces méthodes-là, où est la vie privée de la personne ? Je suis d'accord, c'est vraiment... C'est un problème. Alors initialement, je vais dire humblement, quand on est chercheur, ces questions sont très importantes, la déontologie. On essaye d'en tenir une grande part, mais lorsqu'on fait des avancées, par exemple quand on a fait la technique de past tracing, on ne pensait pas que ce genre de technique ferait de la falsification d'images ou autre, ou ambiancer ce genre de méthode. Après, c'est les utilisations, je suis d'accord.
Je me souviens plus du nom, c'est un psychologue, je crois, dans les années 70, qui expliquait que l'être humain allait en avance sur la consommation, etc. Puis d'un coup, il voyait que le bien-être, c'était pas dans la consommation, donc il retournait sur une vie plus classique. Et l'évolution humaine, enfin Darwin, l'évolution, c'est des milliers, des centaines de milliers d'années, et on va un peu vite. Et l'économie, il y a parfois des trucs, des courbes non linéaires, avec des montées et des descentes. Et quand on quitte le point d'équilibre, on arrive sur un nouveau point d'équilibre qui est complètement ailleurs. Et on a beaucoup de mal à retrouver le point d'équilibre antécédent.
D'accord. Merci pour cette précision.
D'autres questions ? Non ? Bon. Eh bien, merci. En fait, on va faire une pause. Il y a une autre conférence du laboratoire Xlim à 16h avec François Le Cellier et
Rodolphe Vauzel.
Voilà, Rodolphe Vauzel, autour de la sécurité informatique, exemples et applications. Donc, je vous invite à poursuivre, à aller prendre un café et puis à revenir tout à l'heure.